Lueur. J'ai la petite vie monotone d'une jeune mère de famille. Rien qui brille, tout qui rayonne. Voilà, c'était un petit extrait d'Éclat, écrit par Mélanie Leblanc, parce qu'aujourd'hui, Mélanie Leblanc est avec nous. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Bienvenue dans La Langue Brune. Mélanie Leblanc, aujourd'hui, on va parler d'Ariane Dreyfus.
Tout à fait.
Voilà.
Une poète qui était invitée à Poésie dans la rue. Elle est née en 1958. Elle publie depuis 20 ans dans d'importantes maisons d'édition. C'est une poète qui m'impressionne beaucoup, en fait, par son extrême sensibilité. Mais elle a une grande force de dire. C'est une petite sœur d'Emily Dickinson, si on veut. Ses écrits sont vraiment très justes. Aussi sont-ils en harmonie avec qui elle est. En fait, donc, j'ai eu la chance de la rencontrer et de l'interviewer lors de Poésie dans la rue en septembre. Et son dernier livre n'est pas un livre de poèmes, mais un livre sur lire et écrire, qui est publié dans la collection « En lisant, en écrivant » de José Corti. Il s'intitule « La lampe allumée si souvent dans l'ombre ». Nous en lirons des extraits après l'interview, car c'est très éclairant, comme son titre l'indique.
C'est parti pour l'interview.
Bonjour Ariane Dreyfus.
Bonjour.
Nous sommes au Festival Poésie dans la rue. On peut entendre derrière la musique sur laquelle dansent les danseurs. Et tu viens de lire un texte pour Poésie dans la rue. C'était un texte extrait de quel livre ?
Nous nous attendons, qui est paru il y a 2 ans, je crois, au Castor Astral.
D'accord. Et peux-tu nous parler de ce livre, pour commencer peut-être ?
Oui, il y a un peintre que j'aime beaucoup, alors que j'aime peu la peinture en fait, c'est Gérard Schlosser. Et ce sont des présences qu'il donne à travers ses tableaux, dont Alain Jouffroy dit que c'est un cinéma immobile. Donc ce sont des présences souvent très proches, des corps, dans la lumière, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, à des moments de repos.
D'accord.
Et mes titres de poèmes, j'ai oublié de le dire tout à l'heure d'ailleurs, reprennent le principe des titres de tableaux de Gérard Schlosser, du genre « Qu'allons-nous faire demain ?»,« En septembre, on sera mieux », etc. Souvent d'ailleurs, je les invente, hein, les titres sur ce modèle, qui semblent être des extraits de conversations de la vie de tous les jours, et donc... C'est comme s'il y avait des histoires entre des êtres qui ne sont pas dites, mais qu'on peut aisément deviner, puisqu'en fait, c'est la vie de nous tous. C'est un hommage à la vie commune, en fait, ce livre.
Et tu y parles beaucoup de l'amour, de façon très directe et avec beaucoup de pudeur, en même temps, un peu comme dans des haïkus, on peut retrouver un rapport... Il y a un rapport à l'amour qui est très beau dans ces poèmes que tu as lus tout à l'heure, mais dans d'autres aussi que j'ai pu lire auparavant.
Mais c'est le désir de dire les choses de façon complète, c'est-à-dire qui entraîne à la fois le cœur et le sexe, et le corps, parce que l'amour est une totalité de la présence, encore une fois. C'est aussi, ça m'intéresse, c'est presque un défi de l'écriture, d'être à la fois très explicite, très directe, et effectivement, sans rien de pornographique. Puisque c'est toujours la pensée qui accompagne l'amour qui importe.
Et j'ai lu dans un article que tu disais avoir rencontré des lycéens et que ces lycéens avaient été touchés par ces textes-là, c'était comme s'ils attendaient de pouvoir lire enfin des textes sur l'amour qui soient à la fois... Enfin, qui est cette tonalité.
Oui, ça concerne mon précédent recueil Castor Astral, Iris, c'est votre bleu, où en écrivant sur un petit iris, je me suis rendu compte, à force d'essayer de le décrire, que je décrivais le sexe de l'homme. Et j'en étais très contente. Je l'ai expliqué aux élèves, j'ai expliqué pourquoi je posais cette petite fleur fragile, mais belle et précieuse, à Dieu, aux religions, qui font tellement de mal, déjà à l'époque, mais encore plus maintenant. Et un garçon, justement, m'a dit que la métaphore, donc, lui a fait du bien. C'est rare, finalement, qu'on offre une métaphore au corps d'un garçon.
Oui.
Donc, habituellement, ça se fait plutôt pour les femmes. Et effectivement, c'était une façon, comme je disais, d'humaniser la sexualité, parce qu'elle doit faire sens. Sinon, ben, c'est simplement un rapport de force et quelque chose qui peut être... très mutilant aussi et très inquiétant. S'il n'y a pas cette pensée sans cesse pour autrui, cette façon que c'est d'accepter l'autre dans son corps tel qu'il est.
Et hier, tu as lu un autre texte qui n'est, ce n'était pas de la poésie. Mmh. C'est un texte qui est paru chez Corti dans la collection En lisant, en écrivant.
Oui.
Et tu peux nous rappeler le titre ?
La lampe allumée si souvent dans l'ombre. Donc c'est la lampe de chevet, là où sont les livres de chevet. Et ça correspondait bien, effectivement, au titre de la collection En lisant, en écrivant. Pour moi, c'est un petit peu le même geste, le même besoin. Lire ou écrire des poèmes dont j'ai besoin, qu'ils viennent de moi, qu'ils viennent d'autrui. On est toujours dans la langue de nous tous. Et ce sont des réflexions, des analyses d'auteurs et des réflexions sur l'amour, la création, l'amitié, enfin, tout ce qui compte, quoi.
Et tu parlais, il y a une définition que tu as donnée de la poésie qui m'a beaucoup touchée. Tu disais que c'était être là.
Oui, c'est Rissotto qui disait dans son dernier livre, Les Vacances, j'écris pour être là.
Oui, j'ai trouvé ça très juste.
Oui, je crois qu'il ne faut pas écrire une poésie pour avoir l'air de ceci ou de cela, pour faire un poème, pour être poétique, pour être d'avant-garde. Non, il faut simplement écrire le poème qui soit sa propre présence et essayer de voir si l'autre peut l'apprendre près de lui et peut y trouver écho en soi. Débordé de sa solitude en quelque sorte.
Et donc tu parlais d'Éric Sautou, c'est généreux ce que tu as fait dans ce livre-là de parler de ces auteurs aussi qui sont de jeunes auteurs, de plus jeunes
auteurs. Jeunes, oui, puisqu'il est de 67, moi je suis de 58.
D'accord.
Stéphane Bouquet aussi d'ailleurs, oui. C'est la même année.
Et donc tu parles d'eux à la fin de ce livre.
Oui,
Et tu sais, tu fais un travail de passeur en fait. Il y a un partage qu'on sent. Il y a beaucoup de générosité dans tes textes. On la sent en acte là.
Ben oui, parce qu'en fait, paradoxalement, j'aime peu de livres de poésie.
D'accord.
J'aime peu de livres de poésie parce que pour moi, c'est jamais assez simple, assez évident. Enfin bon. Et quand je rencontre un livre qui me comble, je suis heureuse. C'est vrai, je ne pense plus si c'est moi, si c'est pas moi. C'est un geste spontané. En plus, ce sont des personnes que j'ai rencontrées au moment où je découvrais leur poésie. Enfin, ça s'est fait en même temps. Et donc, ça accentue l'amitié d'aimer leurs livres et de le dire. Et de les aider à être connus aussi, puisqu'ils ont besoin d'être aimés. Roland Barthes disait qu'on écrit pour être aimé.
On sent que l'amour est très, très présent dans ta démarche même. Ouais.
Ben oui, parce que la langue, c'est le langage, c'est ce qui fait lien, le sexe, c'est ce qui fait lien, et tout se tient.
Est-ce que tu peux nous parler, nous dire juste quelques auteurs que tu aimes, qui sont assez simples justement pour les touchants ?
Oh bien, j'aime beaucoup Supervielle. Supervielle. Malheureusement, je ne connais pas beaucoup de poèmes par cœur, que pourrais-je dire ? Là, ce roman, c'est un petit peu difficile, mais justement, lui, je crois que c'était une expression de lui, il voulait écrire à température humaine, avec des mots simples, et puis en même temps, il fait ce que je ne sais pas faire, c'est-à-dire de la poésie versifiée, en alexandrin souvent, pas toujours, mais versifiée, et oui, il apprivoisait les peurs aussi, c'est ça que j'aime. Il apaise et il essaye d'éclairer l'obscur. Alors que je trouve que souvent la poésie, elle fait l'inverse. Elle dit des évidences de façon compliquée ou des choses pas si importantes de façon compliquée. Je comprends pas pourquoi.
Et dans les poètes vivants ?
Dans les poètes vivants, j'aime énormément William Cliff.
Qui est publié chez qui ?
Oh, ben, c'est un très grand poète, très reconnu. Donc il est publié chez Gallimard, à la Table Ronde. Il est en poésie Gallimard aussi. Et parce qu'il dit le quotidien, même le trivial, c'est parfois très rude, presque, on peut dire parfois même sordide, mais avec une langue, à la fois emportée, véhémente, il faut l'avoir entendu lire. On peut trouver des enregistrements d'entretiens avec lui sur France Culture, et de temps en temps, je pense qu'au cours des entretiens, on l'entend lire. Il faut vraiment essayer de le lire, il a quelque chose de... Enfin, je ne sais pas comment dire, de nourrissant pour moi. Stéphane Bouquet, dont je parle aussi dans La lampe allumée si souvent dans l'ombre, j'aime sacré, il y a beaucoup compté, il y a aussi beaucoup de pages sur lui, parce que lui, il m'a fait comprendre qu'on pouvait dans le cœur du poème même, penser au lecteur et dire au lecteur qu'on pense à lui. Donc en cela, il m'a beaucoup ouvert de portes aussi. Mmh. Oui, J'aime sacré.
Et J'aime sacré, comme toi, être publié chez Tarabuste.
Tarabuste, Rianji, c'est-à-dire André Dimanche, enfin, beaucoup, beaucoup d'éditeurs, hein, oui. J'aime sacré.
Mais, et toi, est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les éditeurs chez qui on peut trouver tes livres?
Alors, pour les derniers, si je prends la poésie, hein, puisque le texte de réflexion, c'est Corti, j'alterne Flammarion et Le Castor Astral. Mmh. Mais précédemment, j'ai publié au Des Bleus et chez Tarabuste. Mmh.
Okay. Merci beaucoup, Ariane Dreyfus, et à bientôt.
This is not a good day to call me, because I cannot spare some sympathy. My own feeling is mostly unclear, and when I'm talking to you, I'm not here. I don't think I'll ever be ready for you, but I'll be trying to help you out too. So I went downstairs for a walk, but I had no strength to not talk. Yes, you are the flatulent one, and I'm the boar who has a gun. You ran into me with such force. Now all I can be is Buddy Bradley, and all of her friends have been approved by them. And all I can hear is people singing. Now two of a kind has come across my mind, where forevermore is painted on her door. Just cancel the Sunday salon and bury the grave digger's son. No money could last for too long, nobody could pay for this song. Friends have been approved by them, and all I can hear is people singing. Now two of a kind has come across my mind, where forevermore is painted on her door. Yes, you are the flatulent one, and I am the boar who has a gun. You ran into me with such force. Now all I can be is Buddy Bradley.
Nous allons poursuivre avec la voix d'Ariane Dreyfus et donc des extraits de La lampe allumée si souvent dans l'ombre. Sans cesse rappeler au lecteur cette force-là, pour que s'aimer dans la langue soit possible. Le poème est ce lieu où ni lui ni moi ne sommes, mais où nous sommes ensemble. Ainsi l'amour n'est-il pas un thème poétique, c'est au contraire écrire un poème qui devient de l'amour. Quand J'aime sacré dit « le poème comme un geste intime qui pense à l'autre. Quand Roland Barthes affirme « l'écriture, c'est quand le texte désire le lecteur ». Quand Stéphane Bouquet souhaite être dans la langue comme dans un amour, il rappelle la règle majeure. D'où dans mes poèmes l'importance de l'attaque pour happer le lecteur et de la fin pour le saisir une dernière fois, rester en lui. Qu'un poème soit un geste qui s'impose, qui se déploie avec une évidence fascinante. Passer entre les fleurs et regarder, au bout du pré, c'est le charnier. Quand Guillevic commence ainsi les charniers, comment ne pas lui emboîter le pas? D'ailleurs, lui-même rouvre alors le chemin où marcha Rimbaud, et nous à sa suite, jusqu'à son dormeur du Val. Guillevic retrace tout le parcours du célèbre sonnet, de son ouverture idyllique à sa chute funèbre, en deux vers seulement, qui nous enferment et nous empêchent de reculer. Le poème qui débute ainsi sera très long, mais en fait constitué d'unités assez brèves et nous ne sortons indemnes d'aucune. Force des poèmes courts, s'ils saisissent d'un coup et en entier, comme une décision que je communiquerai au lecteur. Pas long le poème, viens vite. J'aime dans ce poème cette revendication du présent sans recul qu'il dégage. Truffaut disait qu'il fallait court-circuiter la rationalité du spectateur pour que l'émotion ait une chance de l'atteindre avant qu'il pense. Un poème presque aussi court qu'un seul mot, un poème comme un mot inventé, mais immédiatement compréhensible. Nous allons retrouver ce genre de poème dans La bouche de quelqu'un, paru chez Tarabuste en 2003, et dans Iris et votre bleu, paru au Castor Astral en 2008. Donc on va commencer avec La bouche de quelqu'un, des poèmes donc très courts. À peine nous connaissons-nous que tu l'as enfoncé en moi, soulevé dans le noir. Puis tu la regardes. C'est dehors. Avant de la lécher, c'est dedans. Ce que tu fais, je te respecterai toujours.
La main qui écrit est seule, et celle qui te caresse. Mon sang coule d'abord sur tes doigts. J'aime tant te dire que je t'aime que lui aussi.
Ou de jalousie, je me cache la figure. Ne t'appuie pas sur les fantômes. Viens tout seul. Sexe vivant. Il mérite des baisers de tous les côtés. Tu trouves que je pleure trop. Tu trouves qu'on est heureux. Ceci n'étant qu'une phrase pour en faire deux. Ta joue reposant sur mon sexe, c'est ton regard vers moi qui ne s'écrira jamais. La main toute nue.
Tu ne veux pas trop et tu veux tellement longtemps. Sans me quitter des yeux, tu remontes. Ton épaule est mouillée. Je t'avais tutoyé d'un seul coup. La gifle, sans l'horreur.
J'embrasse ta bouche, tes lèvres, ta bouche, tes lèvres. Tant que tu n'es pas parti, je ne ferme pas les yeux. Tu ne pars pas sans me caresser la tête. Un moment, la couronne qui empêche de pleurer. Le oui, le tien, répété jusqu'au ventre. Pas d'enfant, mais nous qui commençons. Tout devient incroyable.
Nu, une main, la tienne, belle, sur un ventre, le mien, heureux. J'écris plus fort que me souvenir. Je suis ici, ici, tu peux.
Et maintenant, dans Iris et votre bleu, on va dormir. Alors, je te serre extrêmement fort en pleine nuit.
Alors, moi, je vais vous lire les définitions. Sexe. Cœur du corps de ceux qui aiment, à partir d'un certain âge, égare la mort.
Un oiseau dont la force serait proche. J'ai chaud sous le pli de son aile, puis tu desserres le bras. Réellement, c'est beau.
Espoir, sens figuré, plus léger, de désir. Tous deux font trembler le présent du dedans.
Le soleil revient si vite, sur ma tête heureuse, 20 fois ta main.
Les seins sont tous différents et toujours différents.
Tu sais, la vie va durer. C'est une fille modeste qui aime jusqu'aux yeux ouverts.
Cinéma. Un geste continué ensemble, c'est devenu une scène d'amour. Nous revoir en pensée, t'en parler.
Faire attention aux choses arrivées.
La musique écoutée.
Je me penche avec mes seins. Je te donne le silence par la bouche.
Le sexe s'emploie aussi bien pour l'homme que pour la femme. Point de rencontre et universelle émotion.
Tu as bien fait de descendre. Les bourgeons ardents sont sortis, sont rouges.
Les mains, en parler, prendrait des heures. On les leur donne.
S'écartant de l'eau dans le bol, une rose intense et sans visage chante dans son carré.
Lèvres, plus puissantes encore. Il n'y a pas d'amant sans l'embrasser.
Beaucoup d'air entre les meubles. Personne ne cherchera en dehors de la chambre, elle est si grande encore.
Poils, parfois oubliés, offrent pourtant des chemins à celles qui n'arrivent plus à partir et restent dans les caresses.
Le mur qui se fendille, je dors pourtant près de lui. Le plus longtemps possible, ta jambe contre ma jambe.
La queue, pour qu'il y ait un peu de féminin dans la façon d'en parler. Pas trop tout de même.
Il faudrait jeter les branches coupées, leur temps sur terre, si visible soudain.
Mon amour, jusqu'où ira-t-il? Ce mot qui s'envole ne sait jamais s'il trouvera à se poser.
Tu me serres, me réveillant à chaque courbe.
Toi, là où il aime se poser, en présence ou absence, mais transforme celle-ci.
Peur de les emmêler, écarter alors les jambes si tu venais. Il faut être clair quand on aime.
Écrire, étreindre, et jamais. Remuer librement à l'intérieur.
Et de la peau jusqu'au visage.
Poésie, d'écrire, c'est le jour.
Ça se dessine à la main. L'obscurité de la nuit aime quand ça commence encore.
Voilà, c'était des extraits de la bouche de quelqu'un, d'Ariane Dreyfus, paru aux éditions Tarabuste en 2003.
On va revenir maintenant à La lampe allumée si souvent dans l'ombre. Vous voyez, c'est vraiment une poète qui parle de l'amour. Et ce qu'elle dit de l'amour et d'écrire est vraiment très fort. Je commence. Une des descriptions les plus justes de l'état dans lequel on est quand on se lance dans l'écriture d'un poème est donnée par Barthes quand il parle de l'écriture d'une lettre d'amour. Ce que l'amour dénude en moi, c'est l'énergie. Tout ce que je fais a un sens. Je puis donc vivre sans geindre. Mais ce sens est une finalité insaisissable. Il n'est que le sens de ma force. Les inflexions dolentes, coupables, tristes, tout le réactif de ma vie quotidienne est retourné. J'écris pour ressentir, vérifier que j'ai encore envie. Ainsi, je ne compte plus les poèmes, sans parler d'un livre entier comme La bouche de quelqu'un, dont on vient de lire des extraits, commencé en désespoir de cause et qui m'ont relevé. Ce qui m'émerveille, c'est que le sordide et la terreur puissent à ce point en être absents, alors qu'ils en ont été souvent la source. D'où ma détestation pour toutes les œuvres de la plainte agressive, de l'invective, du sarcasme, en un mot de la négativité, souvent masculine il faut dire. Ce n'est pas que je refuse certains thèmes, bien au contraire, mais il y a une noirceur du regard et de la voix chez certains que je trouve vraiment facile et d'un orgueil adolescent. Je préfère me tourner, par exemple, vers les méditations filmiques d'Alain Cavalier, où il pense tout haut en même temps qu'il regarde. Il y donne un charme fou à la vie. Et pourtant, il dit et montre la mort, la solitude, le vieillissement, les plaies et les marques physiques. Mais il les affronte avec une telle curiosité et un tel étonnement, une telle absence de narcissisme, une si grande douceur et patience qu'on oublie l'horreur et la peur. Son œuvre me donne confiance en mes propres forces. Je pense aussi à celle de Franck Venaille, surtout dans ses trois derniers livres. J'aime plus que les autres les livres de poésie que je dévore d'une traite, qui soulagent ma soif en même temps qu'ils me donnent soif d'eux. Tant la confiance que je leur fais est totale. Je veux moi aussi ce qu'ils veulent. Elle cite « Être radical dans l'expression de la souffrance, mais aussi radical dans la lutte que l'on mène contre cette souffrance. Avoir à la fois un corps malade et un corps rendu sain grâce à l'énergie de l'écriture, qui serait comme un sérum. Ce serait la fonction de l'écriture. Ce n'est pas la seule. Elle doit aussi en soi être belle, généreuse, positive. Elle ne doit pas être seulement l'expression de la souffrance. » J'approuve, mais je m'étonne de l'indistinction, qu'en réalité Venaille ne fait pas, bien sûr. Ce qui a lieu, c'est plutôt résister aux assauts en s'abandonnant à l'inexplicable joie d'écrire dans l'obscurité. Tout poème que j'écris aboutira donc à me faire dire « oui », mot largement suffisant. Marche, dis-le, aucune page ne veut regarder réellement en arrière. Et si je préfère la poésie à toute autre mémoire, c'est qu'un souvenir peut, si nécessaire, y être autre chose qu'un souvenir. Façon de forcer mentalement la mort à attendre. Pour n'être pas attrapé, se désindividualiser, et d'ailleurs je ne vis et n'écris qu'avec. M'emboîtant dans la langue pour rejoindre les autres, et l'un des seuils aura été, accroché au-dessus de mon lit à d'adolescente, l'épitaphe que Cocteau a voulu. Je reste avec vous. L'écriture peut faire de la vie quelque chose de vertigineux, l'air de rien. Surtout briser la linéarité, le simple miroir. La vie serait insupportable si on avait toujours son sexe et son âge. La poésie me donne un présent multiplié et qui ne cessera plus d'être le présent. En d'autres termes, garder l'envie de danser. La place et l'air ne manquent jamais à ceux qui dansent. La danse est la vérité du vivant. C'est une citation d'autre. Il y a une façon de plonger dans la danse qui traverse les miroirs paralysants du narcissisme pour parvenir à la conscience de vivre maintenant. Danser, comme le dit Isabelle Gineau, ce n'est pas jouer des rôles, mais accepter vraiment de vivre des métamorphoses. Des éclatements d'être. Poèmes faits de voix qui se rencontrent et de corps qui se croisent. C'est la base. Et Rimbaud est bien le poète central. Lui qui a introduit dans le poème la circulation maximale et les trouées les plus profondes. Voilà, je pense qu'elle dit des choses fondamentales sur sa poésie, mais sur la poésie en général. En tout cas, je me retrouve... Enfin voilà, ça fait écho. Je trouve ça très fort, tout ce qu'elle dit sur écrire.
Merci Mélanie. Alors, c'est l'heure de décembre, hein, parce que depuis septembre, depuis la saison de la langue brune du mois de septembre, à chaque intervention de Mélanie, elle nous écrit des petits vers, en fait. Hein,
c'est pas des vers, enfin, j'écris un texte, quoi.
Un texte
voilà. Pour un mois.
Un texte pour un mois, donc, qui correspond donc, au mois en cours. Hein, et je vous laisse écouter.
Décembre. Il y a de la nuit qui mange le jour, grandit, presque nous avale. C'est qu'on pourrait s'éteindre aussi. Vient la grande, la longue, la dévorante, du fond de cette nuit-là que tout recommencera. Décembre de ses cendres renaîtra. Besoin de beaucoup de noir pour reposer les yeux et voir la moindre lueur comme un bien précieux. Orion surtout, l'ancrage, là toujours même quand tout change. Orion nous réunit avec qui nous étions, avec les trop loin, les depuis longtemps partis. Dormir enfin, elles sont là, les bienveillantes. Elles habitent la nuit et chantent. Au matin, on resterait bien sous la couette, mais il y a un timide, un pâle à saluer. Alors on sort et on rencontre, le long du chemin, une ou deux fleurs, des vaillantes, des résistantes, des sœurs.
Merci Mélanie. Donc c'était Décembre, un texte de Mélanie Leblanc sur une musique de Thomas de Haumont dans l'émission de la Langue Brune. Mélanie, est-ce que tu veux nous dire un petit peu comment te viennent les textes de...
Eh bien, souvent c'est dans la nature. Je marche et... Et je sais pas, je ressens ce qui se passe dehors. C'est vrai qu'il y a ouais, voilà, l'empreinte de la nature qui est vraiment là. Bon, là, de la nature, il fait nuit beaucoup. En ce moment, je suis marquée par le solstice, en fait. J'ai vraiment hâte. C'est donc mardi et les jours vont commencer à croître et ça va faire du bien.
et Thomas, ça va ? Comment il trouve ses musiques
Alors là, il pourra répondre par lui-même, mais là, ça reste un mystère.
Ok, bon, je t'embête plus trop par rapport à ça. Eh bien, on arrive à la fin de l'émission. C'était l'émission de la Langue Brune. La prochaine fois, vous pouvez m'écouter toute seule. Donc, c'est dans 15 jours. Et Mélanie, je te dis à dans un mois.
À dans un mois.
Pour janvier.
Voilà.
Voilà, merci. Au revoir.